Chers frères et sœurs, ce verset biblique contenu au cœur de ce passage du Deutéronome est effectivement une carte de visite qui peut être bien pratique lorsqu'on veut parler de notre foi à quelqu'un qui en ignore tout. Shema Israël, Yahou Echad, Yahou Elohim. Voilà en quelque sorte la formule magique que vous pouvez adresser à toute personne désireuse d'en savoir un peu plus sur ce qui vous anime. La traduction est toujours un peu délicate, pour une raison au moins, c'est qu'en français, il y a une sorte d'ambiguïté sonore que les catéchumènes, en général, ne manquent pas de relever. En effet, que l'Éternel soit notre Dieu, tout va bien. Mais si l'Éternel est un, qui rallume, disent-ils en permanence. Alors, nous aurons, à travers cette phrase, l'occasion d'entendre quelques vérités essentielles sur ce qui constitue notre foi. Et donc, nous allons pouvoir découvrir que ce verset biblique est peut-être l'un de ceux qu'il convient de savoir et de connaître. Non pas simplement être capable de le répéter, mais être capable de le comprendre et de voir la profondeur de ce texte qui dit l'essentiel de notre foi. Le judaïsme l'a d'ailleurs bien compris, puisqu'il fait de ce verset biblique l'un des textes qui sont contenus dans les mezouzot, ces petites boîtes qui sont fixées sur le montant droit des chambranles de porte de toute maison juive, qui sont contenues effectivement dans les téfilim, ces petites boîtes que les juifs les plus pieux lient sur leurs bras et attachent au sommet de leur tête. Ce qui reprend les prescriptions du Deutéronome, tu les lieras sur ton bras et ils seront comme un fronton entre tes yeux. Cinq mots pour dire l'essentiel de la foi. Avouez que c'est une bonne opération, c'est extrêmement rentable ce texte biblique. Et tout commence par chemin, écoute. Tout commence par l'écoute. Nous pouvons même dire que rien n'existe sans l'écoute, qui implique du coup au moins une parole. Une parole qui est prononcée par un autre que nous. Vous voyez, rien que ce premier verbe pose déjà qu'il y a au moins deux personnes et une parole entre les deux. Une parole dont nous prenons connaissance. Selon ce premier mot, chemin, écoute, est un impératif. Un croyant est un être qui écoute, qui fait droit à une parole qui n'est pas sa propre parole. Ainsi commence la Bible d'ailleurs, par des paroles prononcées par l'Éternel, Dieu. Autrement dit, des paroles qui ne sont pas nos paroles, mais des paroles qui nous rejoignent pour créer le monde, c'est-à-dire pour le rendre plus compréhensible. C'est ce que nous faisons avec nos enfants, lorsque nous leur expliquons la vie, nous leur parlons, pour rendre le monde plus compréhensible, plus familier, moins inquiétant, de sorte qu'il puisse se jeter dans l'aventure de la vie. L'apôtre Paul écrira que la foi vient de ce que l'on entend, dans l'Épître aux Romains. Rien de plus juste. Pensons à nous. Pensons à notre parcours de foi. Serions-nous véritablement ici ce matin si quelques personnes n'avaient pas balbutié quelques mots qui ont fait sens pour nous. Quelques mots qui sont devenus effectivement paroles et qui ont éveillé, réveillé quelque chose qui sommeillait en nous peut-être, mais qui était indistinct, incompréhensible et qui a pu venir au monde. Parce qu'un autre que nous a mis du sens là-dessus. En régime biblique, la foi n'est pas un sentiment diffus, une sorte d'émotion que l'on ne pourrait pas caractériser, un état de bien-être intérieur dont on ne pourrait rien dire. En tous les cas, il me semble que nous devrions en résister à cette idée selon laquelle il est grand le mystère de la foi. et qu'en conséquence, nous ne pouvons rien en dire. La foi, bien au contraire, relève de la parole raisonnable, de la parole pensée, de la parole qui est la pensée, de la parole qui donne du sens, qui donne une place à chaque chose et qui lui donne une raison d'être. La foi est l'écoute d'une parole qu'un autre nous adresse et qui va faire sens pour nous, que nous allons écouter. Les fiancés, je l'ai déjà dit quelques fois, sont ceux qui ont confiance dans la parole d'autre. Et du coup, cette confiance, c'est de la foi. Que la foi soit suscitée par la parole nous aide d'ailleurs à repenser le terme de religion. Bien souvent, on dit que la religion, c'est le fait d'être relié les uns aux autres. Je crois que cette étymologie est légèrement factice. La véritable étymologie du mot religion, ce n'est pas religare, mais religere. Relivre. Réécouter, réexaminer. Penser ce que nous avons entendu. Reprendre ce que nous savons. Bien sûr, dans l'objectif de le réformer sans cesse. Mais reléguer, relire, passer en revue, repasser par un lieu, être à l'écoute d'un autre que nous. Ne pas prendre une parole et en faire une parole définitive qui serait du coup notre parole. Sans cesse la remettre sur le métier, la remettre en dialogue avec une autre parole que la nôtre. Et quand cette autre parole est peut-être un peu trop assimilée, remettre une autre parole encore. Se frotter les uns aux autres. Ne pas se contenter d'un état passé qui devrait être désormais un état définitif. Prendre conscience que notre connaissance de la vie nécessite d'autres expériences. Elle mérite d'être passée en revue. D'être relue, reprise, réformée, pour être au plus près de la vie qui, elle, n'en finit jamais d'évoluer, d'offrir de nouveaux aspects. Chemin. Que l'écoute soit en tête de cette véritable profession de foi indique l'humilité à laquelle le croyant est appelé. Le croyant est un être qui tire sa vérité d'un autre que lui. On n'est pas croyant seul. On n'est pas croyant parce que nous aurions dans notre ADN le gène de la foi. Nous ne naissons pas croyants, le devenons, on aurait pu lire Simone de Beauvoir. Bon, je ne voudrais pas trop lui faire porter de propos religieux. Le croyant, pour lui, n'a pas la science infuse, et c'est cela qui compte. Il n'a pas la science immédiate de tous les mystères. Il ne naît pas en sachant tout sur tout. Et même au cours de sa vie, il a encore beaucoup à apprendre. Le croyant est un être qui se met à l'école d'autrui. C'est un être qui sait qu'il ne sait pas. C'est un être qui accepte le principe de la révélation dont il bénéficiera. C'est un être qui s'engage dans une sorte de processus d'initiation. Infini. Chemin Israël. Que le deuxième mot soit Israël pourrait nous faire penser que cette profession de foi est réservée à Israël, qui parfois retentit comme un synonyme d'israélien. Il faut faire la distinction entre israélite et israélien. Israélien, c'est la dimension politique. Israélite, c'est la dimension religieuse, spirituelle. En tant que chrétien, avons-nous quelque chose à faire d'une parole adressée à Israël? Il n'est pas tout à fait inutile de se reposer parfois la question, comme il n'est pas tout à fait inutile de se redemander parfois s'il est juste et bon de prêcher sur un texte de la Bible hébraïque dans une assemblée chrétienne. Une fois qu'on se pose la question, on répond par certainement. Oui, bien sûr, il est bon, il est bon. Non pas en raison du fait que nous devrions considérer les chrétiens comme un nouvel Israël qui remplacerait l'Israël biblique. Nous ne devrions pas non plus considérer qu'Israël est une affaire génétique. Le premier mot dit que ce n'est pas génétique. L'écoute, l'écoute. L'apôtre Paul utilise toujours dans son épître aux Romains, au verset 11, l'idée que chrétiens et juifs sont issus du même tronc. Deux branchages, deux rameaux, issus du même tronçon, la même sève qui coule dans leurs veines. C'est un branchage direct, dit l'apôtre Paul. Certains ont été greffés ou seront greffés sur le tronc commun. Dans tous les cas, tous ont une même racine. Et c'est cela qui compte. Mais l'image de l'arbre pourrait être trompeuse, parce qu'elle pourrait donner le sentiment que le peuple de Dieu est tel un arbre. Nous sommes tous reliés les uns aux autres par la même sève qui coule dans les veines, et dans une certaine mesure, nous serions encore dans une image assez statique. Israël dans la Bible vient d'un épisode tout à fait intéressant, dans le livre de la Genèse. Le patriarche Jacob a eu un comportement avec son frère qui n'est pas tout à fait des plus heureux. Il a un peu roulé dans les lentilles. Et il s'agit de se réconcilier. Et au moment où les deux vont se retrouver après quelques années d'hostilité latente, Jacob passe une nuit à lutter avec un personnage mystérieux. Certains disent que c'est un ange de l'Éternel. D'autres disent que c'est l'Éternel lui-même. Il n'est pas impossible que ce soit Jacob qui lutte avec lui-même face à Dieu. Toujours est-il qu'au terme de cette lutte, au moment où le soleil va à nouveau se lever, Jacob demande une bénédiction à ce personnage mystérieux. Et pour toute bénédiction, il recevra un nouveau nom, Israël. Et ce personnage lui dit que désormais on l'appellera Israël parce qu'il a lutté avec Dieu. Et non pas contre Dieu, il a lutté avec Dieu et il l'a emporté. Israël signifie Dieu combat, Dieu lutte. Cet épisode indique que la foi n'est pas un long fleuve tranquille, mais une lutte, un combat avec Dieu. De nos jours, dans un climat un peu plus pacifié, dans une assemblée qui a déjà entendu chemin écoute, et qui sait que la parole est décisive, nous pourrions parler de débat, de dialogue animé, de conflit hermétique, de dispute théologique, de conversation qui nous engage en profondeur. C'est cela, Israël. Israël, c'est la lutte avec soi-même, la lutte avec les autres et non pas contre les autres, pour accéder à la vérité. La vérité de la vie. C'est l'arbre du dialogue. Israël, c'est l'arbre du débat. Israël, c'est l'arbre de l'interaction avec ce qu'il y a de plus sacré. Le divin, l'ultime, ce qui a valeur d'absolu. Israël, ce n'est pas quelque chose d'inscrit dans l'ADN. Ce n'est pas un livre. Israël, ce n'est pas non plus quelque chose d'écrit sur un passeport. Israël, c'est l'arbre de l'entre-deux. C'est l'art du combat avec soi-même et avec l'autre, d'où jaillira l'authenticité de la vie. Shema Israël. Yahou. Si vous êtes prêt à écouter autour de vous, si vous êtes prêt à vous confronter à une vérité qui n'est pas la vôtre, alors vous êtes prêt à découvrir le troisième terme de cette carte de visite, le tétragramme. Yahou. Quatre lettres. En français, ça donnerait quelque chose comme YHWH. Un prononçable, comme en hébreu. C'est le fameux nom de Dieu, le nom propre de Dieu, ce qui dit l'essence de Dieu, prononcé dans la tradition israélite une seule fois par le grand prêtre pour le jour du Yom Kippour, le grand pardon. prononcer le nom de l'Éternel, pour que le peuple reçoive le pardon de Dieu. Manifestement, ce mot est construit sur la racine Aya, qui veut dire être, mais plus exactement devenir, advenir. Et parce qu'il y a un préfixe, le petit Y, cela indique que ce verbe est construit au temps de l'inaccompli. Il y a deux temps en hébreu, ce qui est beaucoup plus simple qu'en français. Il y a l'accompli pour tout ce qui est fait, définitivement fait, et l'inaccompli pour ce qui est en train d'être fait ou ce qui est encore à faire. Si je vous dis « je mange », c'est de l'inaccompli, je n'ai pas encore fini de manger. Et bien ici, ce verbe est conjugué à l'inaccompli. Le temps de Dieu est un temps inaccompli. Ce n'est pas ce qui est achevé, ce qui est clos, c'est ce qui est en route. Et du coup, ce verbe, que l'on pourrait traduire par « advenir », c'est un verbe de la venue au monde, c'est le verbe qui dit ce qui surgit, ce qui existe désormais et après tout. Le mieux serait de le traduire par « exister ». Accomplir ses potentialités, se manifester pleinement. Au commencement était la parole, et la parole a dit que la lumière existe, et la lumière se mit à exister. Cela indique que la création n'est pas une fabrication à partir de rien. La création, c'est de faire en sorte que ce qui est là, potentiellement existant, existe effectivement. C'est comme lorsqu'on parle à un enfant, riche de connaissance, riche de puissance, d'énergie, et qu'une parole libère cette énergie. Qu'une parole libère justement sa propre parole, et qu'il se met à raisonner à voix haute, qu'il se met à accomplir certaines choses, parce qu'une parole a libéré ce qui était là, en potentialité. Yahou Elohim. Elohim, ça veut dire notre Dieu. Yahou est notre Dieu. Pour les fidèles de la religion biblique, Dieu, ce n'est donc pas un être surnaturel, quelque part, dans un coin de l'univers. Dieu désigne ce qui rend la vie possible, ce qui la fait exister, ce qui permet d'accomplir les potentialités qui sont en germe dans le monde, ce qui fait que ça peut éclore, ce qui fait que le printemps peut encore venir. Et voilà ce que nous partageons, dit cette confession de foi. Nous mettre à l'écoute active pour découvrir cette réalité ultime qui est la possibilité de faire advenir les promesses que contiennent nos histoires personnelles et collectives. Voilà, c'est super ramassé. Un peu dense comme phrase. Mais entendons-le peut-être de façon plus diluée. Déjà en entendant que notre Dieu est une façon de faire voir à ceux qui veulent que la religion ce soit une façon d'être reliés les uns aux autres. À défaut d'être fondée sur religaré, au moins la religion parle bien d'un notre Dieu qui fait que nous avons du commun, qui fait que nous sommes donc solidaires les uns les autres, effectivement. Un mot unique pour dire que nous avons une perspective en commun, que nous nommons Dieu. Nous pouvons avoir des liturgies différentes, nous pouvons avoir des chants différents, des manières différentes de nommer nos lieux de culte. Nous pouvons avoir des objets qui diffèrent d'un lieu à l'autre. Nous pouvons avoir des manières différentes de scander les étapes importantes de la vie. Nous avons en commun cet intérêt ultime pour ce qui ajoute de la vie à la vie. Notre Dieu, ce qui pour nous a valeur d'absolu, c'est Yahou, c'est ce qui fait exister, c'est ce qui ajoute de la vie à la vie. Ce n'est pas une liste de choses qu'il faudrait croire. Ce n'est pas une liste d'éléments catéchétiques, de doctrines. Pour nous, la foi, c'est ce qui nous fait adhérer au fait qu'il y a de la possibilité pour ajouter de la vie à la vie, même lorsque ça semble bien mal parti ou quasiment achevé. Nous avons en commun le désir de la vie. Là où beaucoup sont animés par des pulsions morbides, mortifères, mortelles, ceux qui professent cette foi disent que ceux qui les animent, ce qui les fait se lever le matin, ce sont des pulsions de vie, le désir d'exister. Nous avons en commun cet idéal qu'est la vie en plénitude, la vie portée à son incandescence, la vie qui atteint des niveaux insoupçonnés, précisément parce que nous sommes à l'écoute d'un autre que nous, ce qui nous permet de découvrir les aspects de la vie que jusque-là nous ne soupçonnions même pas. Notre vie n'est pas à notre mesure. L'homme n'est pas à mesure de l'homme. Ce que nous avons en commun, c'est le goût pour ce qui transcende notre quotidien, ce qui réenchante notre vie. Notre Dieu, c'est Yahweh, ce qui transcende notre ordinaire, ce qui le rend sublime. Cinquième mot, un. Que l'Éternel soit un a des conséquences aussi bien sur notre compréhension de Dieu que sur notre personne. Pour cela, il faut se remettre dans le contexte du Proche-Orient ancien, où les divinités peuplaient la vie quotidienne. Il y avait le Dieu de la pluie, le Dieu de l'agriculture, le Dieu de l'amour, le Dieu de la guerre. Vous veniez au culte ici, vous aviez un dieu. Vous repreniez les transports, vous aviez un autre dieu. Une fois à la maison, vous aviez vos divinités personnelles. Et puis le lundi matin, quand vous alliez pointer, encore un autre dieu. Et à chaque fois, des règles particulières. Au bout du compte, cela fait une vie fragmentée, en zones étanches. Avec à chaque fois une logique propre, avec du coup des conflits de légitimité. Parce que chaque divinité a ses valeurs spécifiques. Et du coup, il peut y avoir des conflits de valeurs. Cela favorise une sorte de tiraillement intérieur entre plusieurs systèmes de fidélité. C'est après tout ce que disait Albert Camus quand on lui parlait de l'Algérie. Et il répondait « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. » Mais il y avait un conflit de légitimité. Plusieurs niveaux d'exigence qui nous conduisent à chaque fois à avoir des problèmes pour choisir notre éthique. Eh bien, si le monothéisme a ceci d'intéressant qu'il favorise la communion entre tous les êtres humains, puisque s'il y a un seul Dieu, nous sommes donc tous reliés au même Dieu, un seul Père, nous sommes donc tous frères et sœurs, une vraie solidarité a lieu, le monothéisme a aussi pour intérêt de favoriser l'unité de la personne. Nous ne sommes plus tiraillés entre plusieurs absolus différents. Il n'y a rien de pire que d'avoir plusieurs absolus différents. Ou alors, tout devient relatif. Et contrairement à ce que l'on imagine, le protestantisme, ce n'est pas la religion du relativisme. Le protestantisme relativise ce qui doit l'être pour permettre à l'absolu d'être l'absolu. Et c'est justement en considérant qu'il n'y a plus des absolus qu'on relativise tout. Nous n'avons plus à avoir des comportements qui seraient différents en fonction des situations, selon que nous sommes en famille, avec des amis, en église, à l'école, à l'hôpital ou au travail. Il n'y a plus l'Éternel et Mammon, par exemple, ou alors l'Éternel et Narcisse. Le monothéisme indique que nous pouvons penser notre vie, toute notre vie, face au même absolu. Nous n'avons pas besoin d'être schizophrènes. Nous n'avons pas besoin de faire autre chose que d'envisager chaque aspect de notre existence selon une orientation commune. Notre vie est alors toute tendue dans un même sens, ce qui déjà est quand même plus reposant, mais aussi plus juste par rapport à la vie. Parce que si nous sommes écartelés entre des intérêts contradictoires, alors nous ne faisons que du surplace. Nous sommes fichés en terre, coincés sur place, irrémédiablement. Nous sommes à nouveau cloués par des intérêts contradictoires qui se neutralisent mutuellement. C'est comme en physique, quand la somme de toutes les forces aboutit à zéro, c'est que le mobile est immobile. Et lorsque nous devenons immobiles, ce n'est pas tout à fait bon signe. Un Dieu, c'est une manière de considérer que l'ensemble de notre vie est passé sous un même regard. Et c'est la fin possible de toutes les rivalités intérieures qui nous dévorent, qui nous retiennent de nous engager dans des projets, parce qu'elles bloquent nos choix par des indécisions interminables. Alors cette carte de visite, reprenons-la. Par-delà nos intérêts personnels, par-delà nos envies et par-delà les usages communautaires, les hommes et les femmes qui se reconnaissent dans cette expression biblique de la foi considèrent qu'il y a une vérité qui l'emporte. Il y a une vérité qui relativise toutes nos vérités secondes. Et cette vérité, elle est à redécouvrir par l'écoute. Et cette écoute est une lutte sur soi-même, une lutte avec les autres. Chemin Israël. C'est une lutte sur nos préjugés, sur nos idées fixes, sur nos stéréotypes, sur nos « on nous a toujours dit que c'était comme ça ». Et il y a une vérité à découvrir qui s'exprime dans le fait que l'appel à l'existence, Yahoo, l'appel à l'existence de ce qui n'existe pas encore, Yahoo, est ce qu'il y a de plus ultime pour nous, Elohim. Et que cet appel à l'existence de ce qui n'est pas encore est ce qui est capable de rassembler les éléments épars de notre vie. Erat, Shema Israël, Yahoo Elohim, Yahoo Erat.